Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez pour ce magazine à la bonne heure. Aujourd'hui, nous sommes deux pour recevoir le colonel Sylvain Besson, directeur départemental et chef de corps des sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence, qui viendra nous parler de la prévention et puis du SDIS 04 en général. Ravie de vous accueillir, colonel Sylvain Besson, dans nos locaux à Digne pour parler prévention et parler du SDIS, parce que ça reste encore assez général pour les citoyens. C'est le centre de secours d'incendie, centre d'incendie et de secours qui est à Digne, par exemple, depuis de nombreuses années.
Bonjour, oui. Bonjour. Donc, le SDIS, effectivement, c'est un acronyme un petit peu, peut-être pas barbare, mais que les gens ont à la fois l'habitude d'entendre, mais qui n'associent pas forcément à quelque chose de concret. Donc le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Donc c'est la structure, l'établissement public, pour être précis, qui regroupe l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, mais aussi des agents administratifs et techniques, de manière à ce que les secours d'urgence soient distribués, soient accomplis de la meilleure manière. Donc le SDIS, le service départemental d'incendie de secours des Alpes-de-Haute-Provence, ce sont plus de 1600 personnes, donc un peu plus de 1400 pompiers volontaires qui sont répartis sur nos 42 implantations, nos 42 centres d'incendie et de secours, nos 42 casernes. Donc 41 casernes permanentes et puis deux postes saisonniers, ce qui fait donc même 43, mais un poste qu'on active un peu moins sur Pralou, et puis un poste qui est activé en permanence l'hiver sur la Foudalos. Voilà. Et donc après 41 autres centres de secours pour distribuer les secours de la meilleure manière. Donc 1400 pompiers volontaires, 85 pompiers professionnels, et puis 46 agents administratifs et techniques, puisque nous avons au SDIS les fonctions support, nous recrutons les personnels, nous les payons, nous achetons les matériels, les véhicules, c'est le SDIS en direct qui achète l'ensemble des matériels et équipements, nous les entretenons. Donc pour cela, il nous faut aussi une petite armée d'agents, de soutien, que ce soit sur les ressources humaines, les finances, les services soutien logistique et opérationnel, notamment.
Mais c'est un service de l'État ?
Alors, ça n'est pas directement un service de l'État. Nous sommes en fait sous une double autorité, l'autorité du préfet ou de la préfète de département pour la partie dite opérationnelle, la réalisation des missions de secours, les missions de planification. La planification, c'est de préparer au mieux les interventions avec des plans, bien sûr, avec des exercices départementaux parfois, sous l'égide de la préfecture. Et puis, c'est aussi, par exemple, la prévention dans les établissements recevant du public. C'est quelque chose généralement d'assez connu pour les exploitants, les maires, c'est quand la commission de sécurité, en amont on a même des études sur plan, et la commission de sécurité valide l'ouverture d'un établissement sur le public ou la poursuite d'exploitation, de manière à ce que monsieur et madame tout le monde, quand ils séjournent dans un restaurant, dans un hôtel, par exemple, notamment, soient en sécurité pour cette période-là. Donc ça, c'est sous l'égide et l'autorité de l'État, et puis nous avons aussi une autorité plutôt territoriale au travers du conseil départemental et de sa présidente Eliane Bareille, qui a délégué cette responsabilité à Jean-Claude Castel, maire de Corbières et président donc du service départemental d'incendie de secours. Donc on a une double tutelle, et puis au quotidien le service fonctionne par l'action du directeur du SDIS, chef de corps, donc en l'occurrence moi-même, mais comme mes 97 autres collègues dans les autres structures. Donc 1600 personnes, parce que nous avons aussi nos jeunes sapeurs-pompiers, 150 à 200 selon les années, et puis nos anciens retraités qui poursuivent une activité auprès de nous en tout cas, notamment sur des missions logistiques et de soutien, c'est-à-dire qu'au quotidien, ils nous emmènent parfois des véhicules au garage, au contrôle technique, pour éviter que ce soit des pompiers opérationnels qui le fassent. Et sur les opérations, quand il y a un feu, comme ce week-end à la Brianne, nous avons des gens de l'équipe de soutien qui viennent pour faire à manger aux pompiers, pour leur amener le véhicule avec l'eau à boire pour s'hydrater, notamment cette période de vigilance orange canicule. Donc voilà, on a vraiment tout le panel de 13 ans pour la date d'entrée minimale aux jeunes sapeurs-pompiers jusqu'à 77 ans, comme on dit. Chacun trouve une place à un moment donné dans notre belle organisation.
Dès 13 ans, ça paraît jeune. Et quelles sont les missions qu'on donne à... Alors, ce sont des sapeurs-pompiers bénévoles.
13 ans, nous sommes sur les jeunes sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que c'est un tissu associatif qui leur permet, de 13 à 17 ans, de se former au métier, à l'activité de sapeurs-pompiers, notamment par du sport, du secourisme, des activités de secours et de sauvetage, de manière à passer le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, dès lors qu'ils ont entre 16 et 18 ans, et donc ce qu'il dispensera s'ils le réussissent, d'une grande partie de la formation de sapeurs-pompiers volontaires. Donc cette partie jeunes sapeurs-pompiers, n'y a pas de mission opérationnelle exécutée par ces jeunes, bien entendu, et ensuite ils sont pris en charge dans les centres de secours où ils sont affectés, au plus près de leur domicile, pour devenir pompiers volontaires, et là, sous la base et l'accompagnement d'un tuteur, trouver au fur et à mesure du temps une activité auprès des pompiers volontaires, de leurs collègues un peu plus âgés.
Donc pompiers volontaires, ça veut dire quoi? S'ils ont un travail à côté, il y a un temps qui est consacré.
Tout à fait. Alors c'est une activité qu'ils exercent comme d'autres, encadrent dans des associations, comme d'autres sont élus. C'est du temps libre qu'ils occupent pour cela. Donc quand ils ont une activité salariée, ce qui est la majorité des situations, c'est sur leur temps libre le soir, le week-end, ou par convention, on essaie, et on fera ce soir d'ailleurs une soirée employeur sur Barcelonnette, de manière à réunir les employeurs de pompiers volontaires et leur expliquer que c'est très précieux pour le SDIS, pour les pompiers des Alpes-de-Provence, de disposer en journée, du lundi au vendredi, là où, au moment où tout le monde travaille, et donc comme tout le monde travaille, il y a moins de disponibilité, mais c'est aussi le travail, l'activité qui crée les incidents. C'est moins en pleine nuit qu'on a des accidents du travail, il en arrive, mais c'est quand même peu fréquent. On a moins de déplacements sur les routes, donc c'est au moment où notre disponibilité de pompiers volontaires est parfois la plus restreinte que nous avons aussi la disponibilité, l'activité la plus importante. Donc on signe des conventions avec nos employeurs publics et privés, les maires, certains patrons de sociétés, de manière à ce qu'ils puissent laisser partir, sous certaines conditions, leurs salariés pompiers pendant une heure et demie pour faire un secours en proximité. Donc les pompiers volontaires, c'est effectivement en plus de leur activité salariée, quand ils en ont une, et c'est surtout sur leur temps libre, notamment le soir et le week-end, où ils sont d'astreinte, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils se mettent disponibles au travers de leur smartphone. Nous avons bien sûr une application pour cela, et ils répondent aux demandes de secours quand elles arrivent. Dans des cas plus restreint, nous avons aussi des pompiers volontaires qui peuvent être de garde, qui peuvent être auprès des pompiers professionnels sur les centres de secours les plus importants du département pour garantir quand même une réponse rapide en journée du lundi au vendredi, comme je disais.
J'ai envie de vous demander les compétences qu'il faut pour être pompier volontaire. Il faut être assez costaud quand même.
Je crois que par votre question qui est justement volontaire, il faut démystifier un petit peu l'image que les pompiers ils ne véhiculent plus. À l'époque, c'était véhiculé par les photos, par un certain nombre de films aussi, par un certain nombre de discours. Il n'y a pas besoin de surhomme ou de, je ne sais pas si on dit surfemme, mais en tout cas de sportifs de très haut niveau. Chez nous, il y a besoin d'un esprit, un état d'esprit de vouloir aider l'autre, de vouloir travailler en équipe. On travaille toujours au moins à deux, voire à beaucoup plus. Et donc, l'activité, l'aptitude physique est importante, mais elle n'est pas strictement indispensable au sens d'une très grande activité aptitude physique qui peut se développer au fur et à mesure. Donc il nous faut des gens qui, j'allais dire, ont deux bras, deux jambes et surtout l'envie de s'engager pour les autres, pour leur territoire. Et au fur et à mesure, s'il y a un petit écart avec certaines performances, qu'elles soient techniques ou physiques, elles se corrigent au fur et à mesure. Mais bien entendu qu'il y a un niveau minimal qui est requis et qui est vérifié lors de nos tests de sélection. Mais encore une fois, pour vos auditrices et vos auditeurs, être pompier volontaire, être pompier professionnel, être pompier tout court, puisque ça n'est pas visible et écrit sur les uniformes, heureusement d'ailleurs, c'est un vrai, véritable engagement citoyen, c'est une véritable satisfaction pour celles et ceux qui l'incarnent et qui le réalisent chaque jour. Et je crois que c'est important que chacune et chacun qui nous écoute en ce moment se pose la question... Voilà, de quel engagement il pourrait avoir pour la société, tout simplement. Et pompier volontaire est une bonne réponse, en plus en proximité, puisque généralement vous avez un centre de secours à moins de 10 km de votre domicile, voire plus proche. Donc voilà, s'il se pose la question, qu'il n'hésite pas à contacter le centre de secours le plus proche ou d'aller sur le site internet du SDIS 04, où toutes les informations et même la capacité à venir candidater en ligne sont possibles, sont ouvertes. Encore une fois, les situations où on refuse des personnels sont assez limitées et nous avons besoin, comme partout en France, de pompiers volontaires, de pompiers professionnels pour répondre aux demandes de secours qui sont dans le département plutôt stables. Dans d'autres départements, elles sont en augmentation. Donc voilà, il faut avoir nos effectifs, une petite armée du quotidien, notamment dans un département des Alpes-de-France qui est soumis à des forts aléas, que ce soit l'hiver avec l'aléa climatique, le secours en montagne, l'éloignement. L'hiver, on ne circule pas quand même de la même manière que l'été. Et puis l'été, on le perçoit depuis une dizaine de jours, le risque feu de forêt, alimenté notamment par de fortes chaleurs et le vent. Et puis le risque saisonnier avec une population qui est quand même multipliée par 3 ou 4, hiver comme été d'ailleurs, avec l'hiver les stations de ski et l'été les lacs et l'environnement méditerranéen que l'on connaît au département.
Alors vous parliez de 1400 pompiers volontaires contre 85 pompiers professionnels. Ça paraît beaucoup de volontaires pour peu de professionnels. Comment on explique est-ce qu'il n'y a pas moyen d'embaucher plus de pompiers professionnels?
Alors, la répartition nationale sur des départements en moyenne, elle est autour de 80% de pompiers volontaires. Pour 20% de pompiers professionnels, nous on est à 95-96% parce qu'on a un département rural, montagneux, avec assez peu quand même. Manosque et Digne sont de belles villes, mais avec une population limitée, autour de 20 000 habitants. Ça reste quand même, vous avez des départements, vous avez des villes de 50, 100 000, 200 000 habitants qui génèrent forcément un nombre de professionnels en proportion beaucoup plus fort. Premier point. Deuxième point, c'est la complémentarité et le maillage territorial. Les pompiers professionnels, au-delà d'avoir un coût, parce que ce sont des emplois permanents, il faut les disposer là où il y a de l'activité. On peut pas, c'est difficile, ça se retrouverait dans tous les autres métiers, de dire on va mettre quelqu'un à l'année en permanence au cas où. C'est pour ça que, plutôt que de ne pas avoir une réponse, le temps moyen d'intervention dans le département étant de 14 minutes après l'appel, 14 minutes après, en moyenne, vous avez au moins 3 pompiers sur place, ce qui est quand même assez satisfaisant. Quand on connaît le département, il nous faut ces personnes en proximité. Exemple, à Barème ou à Saint-André-les-Alpes, il y a 40 ans, c'était les pompiers de Digne qui intervenaient, même s'il y avait une première réponse de proximité éventuellement avec la sirène. Aujourd'hui, on a entre Digne et Saint-André le centre de secours de Barème qui est prêt à partir et le centre de secours de Saint-André dans lequel, du lundi au vendredi, on a des pompiers en caserne. Donc voilà, cet ensemble du dispositif repose sur la complémentarité entre les pompiers volontaires qui majoritairement sont d'astreinte, donc peuvent répondre à une mission en étant disponibles auprès de leur employeur, on l'a dit, ou parce qu'ils ont du temps libre en semaine, ça arrive d'avoir une journée en fonction de du planning que nous avons, et les professionnels qui, dans certains centres, comme par exemple à Fort-Calquier, à Riez, nous avons en journée des professionnels, et bien sûr Manosque Digne, c'est vraiment cette complémentarité qui permet d'avoir ce maillage. Si on voulait plus de professionnels, par exemple, à dire qu'il nous en faudrait 120-130, c'est déjà difficile à financer. Mais en plus, on viendrait forcément, sincèrement, fermer quelques casernes. Et donc, paradoxalement, avec l'effet recherché, on viendrait probablement allonger ce temps d'intervention, ce temps d'arrivée sur les lieux du premier véhicule.
Est-ce que les appels aux pompiers a changé par rapport à avant? N'importe qui appelait les pompiers pour n'importe quoi, un petit chat coincé dans un arbre ou pour des choses pour un essaim ou ça a changé maintenant?
Ça a globalement changé, même si on retrouve encore un peu peut-être avant c'était normal, c'était dans les us, c'était prévu ainsi. Aujourd'hui, on a un peu, parfois, moins dans ce département que d'autres, mais un sujet de l'assistanat, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers, c'est le premier service public de proximité. Dans les villages, tout le monde connaît les pompiers, tout le monde connaît un pompier, donc il y a parfois ce raccourci qui peut être fait. Effectivement, le chat dans l'arbre, comme on dit à chaque fois, on voit assez peu de squelettes de chat dans les arbres. Il peut y avoir, bien sûr, une exception. Donc globalement, nous n'intervenons plus pour ce type de sollicitation, justement pour se concentrer sur l'urgence, l'urgence vitale, l'urgence à agir. Parce que quand un effectif est mobilisé pour quelque chose qui n'est pas de son ressort, il ne l'est plus pour la véritable urgence. Donc il faut veiller au quotidien à maintenir nos capacités d'intervention au plus haut, notamment avec actuellement partout en France et dans le département des Alpes-de-Provence aussi, et en particulier ce sujet d'accès aux urgences, de fermeture parfois des services d'urgence qui nécessitent de ce fait aux sapeurs-pompiers d'évacuer les victimes un peu plus loin et donc les rend indisponibles un peu plus longtemps. Donc c'est vraiment avec la préfecture, avec l'agence régionale de santé, avec l'hôpital, nous travaillons de manière à ce que ça soit le moins perceptible possible. Je parle bien sûr pour ce qui concerne le SDIS, hein. Je ne gère pas les autres aspects. Donc pour vous répondre, voilà, on fait moins d'interventions de confort qui étaient auparavant vues comme normales, mais la multiplication aussi de la facilité d'appeler les pompiers avec depuis une dizaine d'années les smartphones, tout le monde a globalement un téléphone à partir de 12 ans, tout le monde a un téléphone sur lui, et ben compense en fait les appels 1812, les deux numéros auxquels répondent les pompiers des Alpes-de-Provence. C'est près de 60 000 par an à Digne, donc pour 12 000 interventions. Donc on voit bien que si on fait un rapport, pour une intervention on a 5 appels, donc ça veut dire qu'on n'a pas 5 appels pour une intervention, mais que régulièrement un appel n'égale pas une intervention, et heureusement.
On parlait juste, avant de parler de prévention, faire un petit retour sur la féminisation du métier de sapeur-pompier. Ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué beaucoup ces dernières années.
Ça a énormément évolué, et tant mieux, hein, tant mieux dans le sens où ne pas féminiser les services d'incendie de secours, c'est se priver de plus de la moitié des citoyens. Donc, bien sûr, c'est pas normal. C'est anormal sur le fond, et puis derrière, numériquement, c'est vite compliqué. Donc on a un département où le taux de féminisation est plus important, assez largement d'ailleurs, que la moyenne nationale, puisque nous sommes à 30-31% en moyenne sur le département, contre une moyenne nationale plutôt de 22-23, donc on est très largement au-dessus. Cela s'explique sûrement d'une part par des actions menées depuis de nombreuses années pour expliquer, comme on le disait tout à l'heure, qu'être pompier, c'est pas avoir des gros bras et courir le 100 mètres en moins de 11 secondes, pas du tout. C'est d'avoir encore une fois de l'aptitude physique, mais de ne pas hésiter à se poser la question. Et la féminisation, sans faire de clichés, ça amène vraiment un plus d'ailleurs sur le nombre d'interventions par une analyse un peu différente. Quand on a des victimes qui sont elles-mêmes féminines, ça facilite parfois, pas tout le temps hein, d'ailleurs, mais parfois les choses. Mais ça, c'était un peu les arguments du début. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arguments particuliers à dire c'est mieux qu'une femme parle à une femme ou qu'une femme occupe une femme. C'est dépassé. Mais notre taux de féminisation continue à augmenter, et c'est très bien. Ça permet simplement, ça engage simplement à adapter quand même nos locaux, par exemple, qui sont pour eux plutôt du début de construction des casernes, il y a 40-50 ans parfois, et qui n'intègrent pas forcément des vestiaires particuliers ou des usages que l'on peut tout à fait entendre et qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que le département, avec les maires et l'État, ont validé un plan pluriannuel de reconstruction et de construction de casernes. 17 doivent l'être d'ici 8 ans. On inaugurait samedi dernier à Ries un nouveau centre. Il y a quelques mois à Valensole un premier. Et donc, dans ces projets-là, qui sont des rénovations totales ou des constructions neuves, bien entendu que la place des femmes pompiers, et je préfère dire femmes pompiers que pompières, hein, ou sapeuses pompières, c'est des termes un petit peu quand même, un peu déjà, qui vont à l'encontre de l'histoire. Et souvent, d'ailleurs, nos éléments féminins ne veulent pas une différence. Elles veulent que la différence s'exprime dans le fait qu'elles puissent devenir pompiers, mais pas de féminiser des termes qui deviennent presque péjoratifs, parce que pompière ou sapeuse-pompière, c'est un peu... C'est pas très joli, d'ailleurs. Donc voilà, de plus en plus de femmes, on appelle à ce qu'elles viennent, encore une fois, qu'on continue sur cette trajectoire, parce qu'on pourrait viser la parité, même si ça n'est pas un objectif stratégique, au sens de dire... il faut avoir une sur deux, mais ça se développe, ça se déploie, et tant mieux. Et encore une fois, elles ont toute leur place dans toutes les missions de secours, même les incendies, bien entendu.
Oui, vous parlez de la communication pour le public extérieur, c'est-à-dire l'image qu'on peut se faire du rôle de pompier. Et je me demande s'il y a d'autres mesures qui sont mises en route de l'intérieur. Là, par exemple, c'est intéressant de parler de la structure des casernes. Est-ce que j'en sais rien ? Il y a peut-être des formations sur le sexisme ordinaire qu'il peut y avoir dans le métier. Est-ce que voilà, il y a aussi un travail de l'intérieur et pas uniquement en communication extérieure ?
Vous avez totalement raison d'évoquer cela, puisque nous avons commencé par cela il y a quelques années et nous le poursuivons notamment, par exemple, de manière très concrète avec notre partenariat avec le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF 04, dont la présidente est Madame Desjardins, et avec qui, avec Laetitia Serena-Bidalo, nous travaillons aussi régulièrement, encore il y a quelques jours, donc sur un plan d'action visant justement à détecter et à faire prendre conscience, parce que parfois il y a encore des comportements inconscients. Alors, ça n'excuse bien sûr pas tout, mais il y a parfois encore quelques comportements inconscients de l'ordre de la blague ou du côté vu comme potache. De moins en moins, les gens ont pris conscience chez nous. Donc on a ce plan d'action mené au plus près des centres de secours. Nous avons aussi des référents égalité-diversité dans les centres de secours. Pas tous, mais on en a à l'échelle. Le département, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est divisé en 5 compagnies. Il y a 5 zones territoriales pour être au plus près de nos pompiers, de nos maires. Donc nous avons 2 à 3 minimum référents par ces zones géographiques au plus près de ce que peuvent exprimer parfois des difficultés ou des situations qu'il faut analyser et traiter en lien avec le CIDFF, en lien avec nos référents, en lien avec la hiérarchie pour voilà, limiter au plus tôt. Mais on est de la part du CIDFF par exemple dans un corps qui vit plutôt bien cela après voilà, une bonne dizaine d'années de travail là-dessus. Ces sujets-là ne sont jamais derrière. Hein. On a toujours, c'est toujours pendant, c'est toujours latent, mais nos sapeurs-pompiers, nos chefs de centre, qui sont majoritairement masculins, on a 2 femmes chefs de centre. D'ailleurs, c'est moi qui les ai installés récemment, hein, à Riez, pour le coup, et à Bannon. Et donc, ça aussi, ça participe d'une normalisation. Mais des fois, on nous le renvoie de manière très statistique, mais... Pour avoir des femmes chefs de centre, il faut qu'il y ait eu un parcours préalable et donc il faut qu'il y ait, comme on dit, le vivier. Donc ça se construit maintenant avec nos jeunes sapeurs-pompiers, puisque dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers, on est quasiment à la parité. On est à du 50-50 femmes-hommes, jeunes femmes, jeunes hommes. Et donc c'est des choses qui, pour avoir l'ombre, il faut planter l'arbre 15 ans avant. Donc on est dans ce type de processus.
Et puisque vous évoquiez les compagnies, les 5 compagnies en question et qu'on est dans le cadre du magazine régional, peut-être un mot sur cette organisation territoriale et sur éventuellement la particularité de chaque territoire.
Alors ces compagnies justement sont découpées de manière à correspondre à des bassins de vie, à des particularités géographiques pour être en proximité avec les habitants, les casernes. Donc nous avons en premier lieu la compagnie du Sisteux, René et de Lubaye, qui est une compagnie assez étendue, mais qui correspond globalement à cette partie nord du département, avec Barcelonnette et son centre regroupé, rattaché de la Haute-Ubaye. Nous avons bien sûr la Bréole, à Ubaye-Serponçon, Seine, les Alpes. Et puis nous basculons après sur la Motte du Caire, Sisteron, etc. Donc ça, c'est vraiment la particularité limitrophe avec le 05 et l'Italie de l'autre côté, et cette première partie montagne. Nous avons ensuite la compagnie au centre de Digne-les-Bains, hein, tout le ressort de Digne, hein, donc jusqu'à la limite avec Seine, on va jusqu'à Moussier-Sainte-Marie, c'est un peu l'arrondissement, on va dire, et puis de l'autre côté, Thouars, en limite de Maligé. Nous avons la compagnie de Fort-Calquier, du Pays de Lure, on pourrait dire aussi, donc Fort-Calquier parce que la compagnie est basée à Fort-Calquier. Donc avec une partie du Val de Durance et cette partie-là qui est aussi voilà, cette Pays de Lure, Bannon, Cérès, Réanne. Nous avons bien sûr la compagnie du Manosquin qui s'étend de Manosque à Esparron, Quinçon, en prenant le plateau de Valensole. Et puis, géographiquement, on pourrait l'oublier, mais elle est très importante pour l'identité du département, c'est la compagnie dite actuellement qui est à Castellane, hein, mais on pourrait dire la compagnie Verdon, puisqu'elle elle va de Alos et de La Foux l'hiver, puisqu'on a ce poste, jusqu'à La Palue sur Verdon, avec toutes ces activités saisonnières, et notamment d'avril à octobre-novembre, hein, avec les gorges du Verdon qui sont mondialement connues et fréquentées par des millions de personnes et de touristes. Donc un accrochement, un ancrage territorial fort, à la fois sur l'identité, parce que les sapeurs-pompiers sont fiers d'être pompiers des Alpes-de-Provence, mais aussi s'attachent à être pompiers du Verdon, à être pompier du Pays de Lure, à être pompier de Lubaille, etc. Donc c'est important d'avoir cet ancrage. Et encore une fois, ça nous donne cette proximité pour les secours et pour l'organisation du quotidien.
Merci, donc, colonel Sylvain Besson. Je rappelle pour nos auditeurs qui nous prendraient en cours de route. On va parler de la prévention. Évidemment, la prévention est différente à chaque saison, on va dire. Bon, l'été, c'est la canicule, c'est les risques aussi bien humains d'être déshydraté, enfin, d'être en manque, surtout pour les personnes âgées ou les bébés. Les préventions toujours bonnes à dire et à répéter, les enfants dans les voitures pendant qu'on fait une course. J'imagine que c'est toujours des accidents, malheureusement, qui arrivent encore.
Alors, bien sûr, la prévention, comme on l'évoquait juste avant l'émission, c'est essentiel. Il n'y a aucune politique, aucune consigne globale qui ne commence pas par la prévention dans tous les domaines. Et en France, on ne peut pas dire qu'on soit les meilleurs élèves, encore une fois, dans tous les sujets de la prévention, c'est-à-dire d'agir avant, de prévenir une difficulté, voire un accident. Alors, bien sûr, on a bien progressé sur la sécurité routière historiquement, parce qu'on arrivait quand même fin des années 70, à près de 18 000 morts sur les routes, avec un trafic qui n'était pas le même. Nous avions quand même 4 fois plus de décès sur les routes. On s'y est mis de manière forte. Hein. La sécurité routière aujourd'hui est devenue, tout le monde l'entend, tout le monde voit des actions concrètes. Eh bien, il faut que dans tous les secteurs, les autres secteurs aussi, hein, on pense au comportement du quotidien par rapport, ici dans le département, aux feux de forêt, à l'inondation, mais même tout simplement au fait de pouvoir secourir quelqu'un en proximité. Et on parle souvent de la famille, mais aussi un collègue de travail, quelqu'un dans sa classe quand on est à l'école ou plus après au lycée, aux études. On constate encore quand même un taux de formation aux gestes qui sauvent, en tout cas aux gestes de secourisme, qui est assez faible, hein, qui est de l'ordre de 30%, c'est-à-dire qu'il y a 70% de la population qui n'est pas formée à ces gestes. Et alors, si on parle de ceux qui sont rafraîchis, recyclés comme on dit parfois, on monte à des taux sûrement bien supérieurs sur la capacité d'utiliser du matériel en proximité. Aujourd'hui, on a des défibrillateurs assez nombreux.
Personne ne sait s'en servir.
Peu de gens savent s'en servir, alors que c'est pas très compliqué. Donc ça oblige, dans ces situations-là, les pompiers au bout du fil à indiquer à la personne présente sur les lieux comment se servir de l'appareil. Donc c'est mieux et c'est plus rapide si elle sait s'en servir elle-même. Donc voilà, sur la formation, de manière générale, qui doit démarrer à l'école, on doit, et qui alimente donc la capacité à prévenir des incidents, on a des marges de manœuvre très fortes dans ce département comme dans tous les autres. C'est pourquoi d'ailleurs nous travaillons le SDIS à l'élaboration d'une feuille de route de la gestion, de la prévention des risques et de la résilience, c'est-à-dire au moment où on a un changement climatique qui semble quand même impacter, et ça c'est même pas qu'il semble, qui impacte les événements naturels qui deviennent plus récurrents et plus violents, en matière notamment ici d'épisodes méditerranéens, c'est-à-dire qu'en quelques heures, vous avez des centaines de millimètres d'eau qui sont déversés sur des sols parfois secs, et ça crée des réactions des cours d'eau qui débordent et qui peuvent emmener des personnes qui n'ont pas trouvé mieux que de prendre leur véhicule parce qu'ils voulaient aller voir ou parce qu'ils ne savent pas que 20 cm d'eau suffisent à commencer à emporter une voiture. Donc nous travaillons avec les services de l'État, et la préfecture en particulier, à renforcer justement les actions de prévention auprès des maires, auprès de la population, pour devenir plus résilient, pour devenir plus conscient de ce que sont les risques dans le département et comment y faire face de manière assez simple. On ne peut pas empêcher l'eau de tomber ou les feux de brûler, mais on peut empêcher les feux de naître, hein, les mégots jetés par les fenêtres, les travaux agricoles ou à la maison de débroussaillement. C'est plus le moment de faire les travaux dans vos jardins, l'herbe est sèche. La meuleuse à disqueuse, ça fait des étincelles, ça fait des points chauds, et en quelques secondes, la pelouse, le massif y prennent, et puis la haie de cyprès, et puis la voiture, etc., la maison. Et ça, les gens, aujourd'hui, on est dans une société, il faut que ça leur arrive pour qu'ils en soient conscients. Donc renversons la table, mettons tout sur les actions de prévention, de faire en sorte que les gens prennent conscience avant qu'un drame ou une tragédie arrive. Vous parliez du véhicule. Malheureusement, il y a quelques jours, à Istres, dans le département des Bouches-du-Rhône, un bébé a été oublié dans une voiture pendant peut-être quelques minutes, puis après vous êtes retenu, puis vous n'y pensez plus, et 2 heures après, vous imaginez la situation, le petit bébé est malheureusement décédé. Donc voilà, il faut qu'on passe à une société de l'action sur la prévention plutôt que de subir chaque fois les conséquences des dommages. Donc pour être concret, on est dans une période où on sait depuis quelques jours, depuis samedi, on est en vigilance orange canicule, mais ça fait 10 jours qu'il fait régulièrement plus de 35 degrés en journée. Donc il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique, comme on dit, ou d'autres écoles pour se douter que si je jette mon mégot, ce qui n'est déjà pas très respectueux de l'environnement, le feu va prendre immédiatement. Et donc, dans cette période qui est ouverte depuis quelques jours, il faut continuer, il faut proscrire tout emploi du feu. Il ne faut pas débroussailler, ce n'est plus la période, son jardin. Il ne faut pas faire de travaux avec point chaud pour éviter que les feux naissent. Et puis s'ils naissent, il faut appeler immédiatement le 1812 pour alerter les pompiers. Sur la partie touristique, on va dire, on parlait tout à l'heure aussi du secours en montagne. On a un département où il y a quelques massifs montagneux, où on est fréquenté notamment l'été dans l'Ubaye, dans le Val d'Alos et dans le Verdon, avec notamment les gorges du Verdon. Eh bien, il faut avoir du matériel adapté. On ne peut pas aller faire une randonnée sur le sentier Blanc Martel
en claquettes
ou même avec des baskets basses. Mm-hmm. On peut se faire assez facilement une entorse. On peut de la cheville, du genou. Et souvent, on constate que les gens, alors que tout est disponible sur Internet, font des randonnées d'une durée trop importante par rapport à leur condition physique, notamment quand il fait chaud. C'est soit très tôt le matin, soit en ce moment, ça ne sert à rien d'aller randonner. Il fait 45 degrés, on a des cailloux qui réfractent la chaleur. Avoir des chaussures adaptées, de l'eau, c'est au moins 2 litres d'eau. En ce moment, même si on part à 6 heures le matin jusqu'à 11 heures pour faire une rando, c'est 2 litres d'eau qu'il faut. Hein, c'est de partir au moins à deux, c'est de prévenir aussi une troisième personne, voire une quatrième, de où on va, de l'horaire présumé de départ et de sortie. Parce que quand quelqu'un, peut-être, n'a plus de couverture téléphone portable, bah, ses proches s'inquiètent. Et puis si on ne sait pas où chercher, c'est compliqué. Donc c'est des mesures simples, vous voyez, être bien équipé de chaussures, d'avoir de l'eau, de ne jamais être seul et de prévenir un proche qui semble à la portée de tout le monde. Donc continuons à transmettre ces conseils et on évitera trois quarts des accidents, c'est sûr.
Alors j'ai envie d'insister aussi sur, parce qu'on parle beaucoup des mégots de cigarettes, effectivement c'est le premier risque d'incendie, mais je pense aux bouteilles vides en verre qui sont laissées dans la nature. C'est aussi, ça fait loupe avec le soleil et ça peut aussi déclencher un incendie.
Voilà, il y a plusieurs sources effectivement en fait voilà, 9 feux sur 10, et j'ai envie de dire 10 sur 10 dans le département, mais quand 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'origine volontaire ou malveillante, mais ils sont d'origine humaine et il y a une majorité d'imprudence, comme vous dites. Et donc des déchets entreposés dans la nature peuvent effectivement, même si ce n'est pas la majorité des départs de feu, mais peuvent faire cet effet loupe, c'est constaté. Mais c'est assez peu, c'est peut-être moins de 5% ça. Par contre, le quotidien, c'est les mégots jetés au bord des autoroutes. On le voit, hein, tous les feux qu'on voit sur le terre-plein central, entre les deux sens de circulation, il n'y a pas un pyromane ou une bête avec des allumettes qui est allée mettre le feu au milieu. Mmh. C'est forcément un mégot. Mmh. On a des fois aussi des dispositifs de freinage hein, au bord des routes, mais des véhicules qui peuvent faire des étincelles chauffées, des camions notamment. Mais globalement, on voit, quand vous vous déplacez, que vous voyez cette végétation noire au bord des routes, c'est essentiellement des mégots jetés, et ça on peut les éviter tous. Et un mégot jeté, au début c'est 1 mètre carré, 2 mètres carrés de broussailles, mais rapidement ça peut être plusieurs hectares. C'est juste en dessous de l'autoroute, bah, une ferme qui est menacée, des habitations, et la personne qui le jette, ce mégot, elle n'en a pas vraiment conscience de tout ce qu'elle va créer. Elle va même pas le savoir, parce qu'elle va continuer sa route, et 2 heures après, en arrivant chez elle, elle va voir qu'il y a un feu dans les Alpes de Provence qui menace 200 habitations et qui a brûlé 300 hectares, et elle ne va même pas être consciente que c'est elle qui l'a mis, ce feu. Donc il faut communiquer sur ces sujets-là. On a des autoroutes, on a des voies à grande circulation dans le 04, et on constate régulièrement des départs de feu en bordure de ces routes.
Oui, j'avais envie de revenir sur les obligations légales de débroussaillement, puisqu'on recevait la semaine dernière le responsable de l'unité territoriale de Digne pour l'ONF. Alors là, vous dites que c'est plus trop le moment peut-être de s'occuper des travaux dans le jardin. Comment ça se passe, ces obligations légales de débroussaillement ?
Alors les obligations légales de débroussaillement, vous avez raison, c'est le code forestier qui les fixe, et puis on a un arrêté préfectoral qui détermine les communes sur quelles communes cette obligation a lieu. C'est pas forcément toutes les communes du département. Alors tout ça est un peu complexe parfois, et c'est vrai qu'il faut faire œuvre de pédagogie auprès des citoyens. Le débroussaillement, c'est plutôt au printemps, c'est plutôt l'hiver-printemps. Pourquoi ? Parce que comme vous venez de le dire, il faut employer des outils thermiques. Il faut forcément, vous allez avoir une lame ou un dispositif qui va taper un caillou à un moment donné, faire des étincelles, et c'est le paradoxe. C'est en voulant protéger le terrain et celui de votre voisin que vous allez mettre le feu. Donc une fois qu'on est dans des périodes où il fait 40 degrés à l'ombre et que la saison est là, c'est plus le moment opportun, sauf dans certaines situations très précises, un chantier, une déclaration d'utilité publique, où on peut les réaliser. Mais globalement, c'est en février, c'est en mars, c'est en avril, voire en novembre-décembre, qu'il faut pouvoir faire ses obligations pour avoir un terrain net. C'est pas deux mois après que tout a repoussé, et puis ça s'entretient facilement à ce moment-là. Donc oui, pour les OLD, c'est fondamental, puisque s'il n'y a pas, si le feu n'a rien à manger, eh bien, il s'arrêtera ou il diminuera en intensité, permettant donc de fait aux pompiers de le maîtriser et de stopper son avancée, sa propagation. Mais en revanche, voilà, là on est le 30 juin, strictement jusqu'au 10 juillet dans le 04, l'arrêté permet de réaliser des OLD, mais enfin les conditions du moment proscrivent cet usage-là, parce qu'on risque, c'est arrivé à Gréoux il y a quelques jours, hein, c'est lors de travaux agricoles, donc pas sur les OLD, mais des travaux qui s'y apparentent, que le feu a pris, a menacé une ferme, a fait tomber une ligne électrique, et puis a brûlé presque un hectare. Donc ces OLD, c'est très important, les maires les relaient, c'est aussi un des axes de notre feuille de route avec la préfecture, pour bien expliquer ce que c'est, ce que ça n'est pas, et comment accompagner nos maires au plus près, parce que c'est pas toujours facile pour un maire de tenir et de tenir par rapport à cette obligation, par rapport à ses administrés. Donc il faut que les services de l'État, le SDIS, les soutiennent et expliquent en quoi c'est vraiment important de le faire, et il n'y a pas de doute que ce soit important de le faire, et puis viennent expliquer sur le terrain, concrètement, sur quelques communes, parce qu'on ne peut pas aller dans les 190 communes, mais en tout cas, on a des relais avec effectivement l'ONF, la DDT, la Direction départementale des territoires, le SDIS, on travaille de concert pour être encore plus pédagogique sur ces sujets-là. Et encore une fois, moi j'ai fait quelques années dans les Bouches-du-Rhône en tant que pompier, dans la même rue, sur un même feu bien sûr, j'ai vu des maisons brûlées, non débroussaillées, et la maison d'à côté, c'est le même feu qui est arrivé, les mêmes conditions, n'a pas eu un euro de dégâts quasiment, parce qu'elle était bien débroussaillée. Donc il n'y a pas de doute, c'est pas juste une obligation légale, c'est une obligation d'efficacité, de sauvegarde de votre patrimoine aux uns et aux autres, pour que vos voitures ne brûlent pas et votre maison ne parte pas en fumée avec tous les souvenirs qu'il y a dedans. Donc il y a un vrai enjeu aussi individuel et puis assurantiel. Quand les OLD ne sont pas réalisés, les assurances sont en droit de dire peut-être qu'elles vont, et sûrement, moins indemnisées parce que vous n'aviez pas réalisé ou récemment vos obligations légales de débroussaillement.
Juste avant qu'on se quitte, parce que c'est bientôt l'heure, donc les conseils de prévention, vous en faites régulièrement. Il faut, est-ce qu'il y a un site? Est-ce que vous allez dans les écoles? Est-ce que
on fait tout ça à la fois.
Comment vous communiquez?
On a nos réseaux sociaux, la préfecture aussi des Alpes de Haute-Provence, comme toutes les préfectures en France, relaie régulièrement des messages, des communiqués de presse pour appeler justement à la vigilance. Mais par exemple, depuis une quinzaine d'années, on a la vigilance météo avec la coloration, hein, vert, jaune, orange, rouge. Est-ce que la question à se poser, par exemple, à vos auditeurs, qui modifie son comportement quand on est en jaune, en orange, en rouge? Qui sait qu'il ne faut pas aller courir parce qu'il fait 40 degrés? Alors c'est une évidence, il n'y a même pas besoin d'être en vigilance, mais il va y aller quand même et faire un malaise, etc. Mmh. Donc il faut que, encore une fois, on inculque ça, et notamment dès l'école, et bien sûr que sur les réseaux sociaux des sapeurs-pompiers des Alpes-de-Provence, comme ceux de la préfecture, relayés par beaucoup de communes aussi, on a ces appels à la vigilance avec des messages précis aussi sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Parce qu'une vigilance en tant que telle, c'est important, mais derrière, il y a surtout les bons comportements attendus et surtout les mauvais comportements à proscrire. Donc ça, voilà, sur nos réseaux sociaux, ceux de la préfecture, vous trouverez en tout temps tous les messages de vigilance à adopter.
Je voulais aussi vous demander par rapport, on n'a pas parlé de la foudre, mais on sait qu'il faut toujours éviter de se mettre sous un arbre et puis éventuellement se mettre sur un tissu ou sur son sac à dos. J'ai entendu parler très récemment, je ne savais pas que ça existait, des personnes, des éclairs partiels clairs qui peuvent tuer. Ouais. Comment c'est possible, ça?
C'est les orages secs. Hein. On a, par moment, sans être spécialiste assez fort de la météo, mais oui, quelques notions. Vous avez des orages secs, c'est-à-dire que les conditions d'activité électrique sont là, mais pas forcément le taux d'humidité qui convient, etc. Et donc vous avez un éclair qui est émis et qui tape le sol, hein, et donc à proximité, si vous avez quelqu'un, si vous avez un objet métallique à la main, ça peut arriver en montagne avec un piolet, etc. Vous pouvez être foudroyé. C'est ce qui, d'ailleurs, dans les 10% qui restent de causes non humaines des feux de forêt, c'est la foudre. Et dans le département, on a du relief. Et, l'été dernier, les 4 plus gros feux, qui n'ont fait que 2-3 hectares, c'est-à-dire tout petit, on redoute cette année des feux plus importants, c'était des feux mis par la foudre sur des reliefs, donc assez haut, difficile d'accès, sans eau, parce que quand il y a la foudre, on pourrait dire derrière il pleut la mer et les poissons, comme on dit, donc ça éteint le feu. Sauf qu'un orage sec, il ne pleut pas, ou très peu. Vous avez des gouttes qui mouillent, c'est là qu'on voit les pare-brises ensablés, là, il n'y a rien tombé, et vous avez une activité électrique qui est pour autant importante et normale, et comme un orage, on va dire, classique.
Ça, on ne peut pas prévoir. Enfin, la personne qui
les orages, c'est très compliqué. Alors, il y a des bulletins météo.
Par un ciel clair,
avant d'aller en montagne, j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais un point important, et c'est assez facilement accessible maintenant aussi avec Internet, c'est les bulletins météo montagne. On peut avoir une idée assez précise, notamment avec les images radar. Enfin, ça demande peut-être un peu d'acculturation, mais le comité alpin français ou d'autres associations forment aussi ou délivrent des messages. Avant d'aller en montagne, il faut regarder la météo, parce que la météo en montagne change rapidement et vous avez parfois l'indication de risque d'orage. C'est jamais sûr, parce que les orages, par définition, on ne sait pas vraiment précisément où ils tombent. On les suit en permanence avec les satellites, mais si vous avez un risque d'orage, par exemple, de 3/5 à l'endroit où vous allez, peut-être faut-il décaler ou monter moins haut, ou décaler au lendemain la randonnée, qui va forcément ne pas être agréable, voire dangereuse.
Donc on peut aller sur le site du SDIS ou
Bien sûr, donc sur le site, enfin plutôt sur nos réseaux sociaux pour, ouais, tout ce qui est vraiment, on va dire, interactif. Le site est plutôt institutionnel sur des informations qui valent pour plusieurs mois, voire années. Nos réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit X, comme on dit maintenant, que ce soit Facebook, vous avez effectivement les missions de prévention qui sont mises à jour plusieurs fois dans la journée quand il y en a. Donc c'est vraiment, l'interactivité est là. Et puis, encore une fois, d'inculquer cela, parce que bien sûr, le message, vous allez dire que vous l'avez vu, mais si derrière il n'y a pas de modification de comportement, bon, c'est bien de l'avoir lu, mais ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on passe beaucoup, on met beaucoup d'espoir dans le département sur la formation de nos jeunes sapeurs-pompiers, des cadets de la sécurité civile, des cadets de la gendarmerie, des jeunes de manière générale à l'école, notamment au collège, qui est l'âge un peu charnière, mais on peut l'avoir déjà à la fin de la primaire, pour, de fait, par effet finalement miroir, sensibiliser et former les parents. Bon, c'est quand même un peu le monde à l'envers. Mais des fois, on vit un peu dans cette société à présent. Mais en tout cas, c'est pas grave. L'important, c'est que tout le monde soit sensibilisé, notamment par les enfants et les jeunes publics, sur les missions, les consignes, pardon, de prévention. Et un dernier message, que vos auditrices et vos auditeurs n'hésitent pas à se renseigner sur la capacité, leur volonté de devenir pompier volontaire. Donc, le confronter à un chef de centre, à un pompier qu'ils connaissent, ils en connaissent forcément un de près ou de loin, et de ne pas hésiter à franchir une porte de caserne lors d'une journée porte ouverte, lors d'une manœuvre un soir. Très, très régulièrement, les pompiers, même quand il n'y a pas de garde, sont présents à la caserne, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir.
Merci beaucoup, colonel Sylvain Besson, d'être venu nous expliquer tout ça. Il nous faudrait beaucoup plus de temps, en fait, pour savoir l'ensemble de vos missions. C'est quand même riche. Tiffany, tu as une dernière question à poser? Non. Merci beaucoup.
Merci
à vous. Appel à tous ceux qui voudraient être pompiers volontaires. Il y en a toujours besoin.
Exactement. On a, comme tout le monde, des gens qui partent, qui cessent leur activité, qui vont ailleurs, qui atteignent l'âge, entre guillemets, de la retraite. Donc voilà, chaque année, on recrute autour de 200 pompiers volontaires. C'est pas rien. Et franchement, en proximité, on a 42 casernes, je disais, pour 198 communes. Donc, à chaque fois, vous êtes peu éloigné d'un centre de secours, donc il ne faut vraiment pas hésiter, au moins à se renseigner et puis à venir au contact des pompiers pour voir si ça peut plaire ou convenir à la famille, à l'environnement professionnel. Mais encore une fois, comme je disais, on rencontre nos employeurs régulièrement, comme ce soir à Barcelonnette.
Et puis pour ceux qui voudraient se former, en fait, dans les entreprises, ça devrait presque être obligatoire pour l'assistance à personnes en danger.
Il y a des formations obligatoires en entreprise, notamment le secourisme et sauveteur du travail, hein, des formations en fonction d'un nombre de salariés. Vous devez avoir un certain nombre de personnes formées. C'est pour ça que le pompier volontaire qui est salarié d'une entreprise ou qui est fonctionnaire dans une collectivité est un atout, puisque lui est déjà formé. Donc il va pouvoir déjà agir quand il y aura un problème, une difficulté, un accident. Et en plus, par rayonnement, par esprit de prévention, hein, propagation de l'esprit de prévention, il va agir forcément sur ses collègues, sur telle ou telle situation, quand il va le voir qu'un extincteur cale une porte, quand il va voir que telle ou telle chose ne semble pas tout à fait conforme, il va en parler à son responsable, il va agir forcément. Et donc le pompier volontaire, il y en a 200 000, plus de 200 000 en France, est un véritable atout pour le monde du travail et n'est pas du tout une contrainte pour un patron ou un responsable d'unité.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous souhaite un bel été, si possible sans trop de feu à couvrir, à trouver des solutions. Voilà, j'espère que tout le monde pensera à bien, déjà ne pas fumer, ce serait encore mieux, mais en tout cas d'éviter de jeter tout mégot de cigarette par la fenêtre ou en marchant. Merci beaucoup Sylvain
Besson. Merci, bonne journée.
Et à une prochaine fois, au plaisir de vous recevoir à nouveau dans nos locaux.
C'est gentil, merci, au revoir.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.